tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Comment est vécue la recherche scientifique par ceux et celles qui la font? Fin 2015, un groupe de jeunes doctorants fait l'expérience nouvelle pour eux de la radio. Le thème, la recherche scientifique et comment en parler. La forme, une conversation radiophonique autour de témoignages de doctorants issus de multiples différentes disciplines de recherche. Des questions parmi d'autres, qui sont les chercheurs, comment vivent-ils, en quoi consiste leur travail, à qui s'adressent-ils? Et quelle est leur place dans la société, leur utilité?
Laisse tomber le fouet, le pistolet, le pantalon en velours et la classe d'Indiana Jones. Troque-les contre un pinceau et une truelle. Arme-toi de ta pioche et de ta pelle. N'oublie surtout pas quelques feuilles de papier millimétré d'un décamètre et d'un niveau de chantier. Tire aussi un trait sur l'Arche d'Alliance, les Temples Maudits et le Saint Graal. C'est trop banal. Va dans ta garrigue marseillaise et tu rencontreras une histoire plus ancienne encore, celle des Grecs, des Gaulois et des Romains. Pour le chantier archéologique, c'est bon, t'es paré. T'as même le droit à ton chapeau. Eh, faut pas déconner. Bon, par contre, si tu fouilles dans des zones charbonneuses, dommage. Laisse ta fierté de côté. Tu vas plus ressembler à un mineur ou à un All Blacks, mais c'est pas grave. T'es archéologue, mon gars. C'est l'après-chantier qui fait moins rêver. Surtout quand tu vas nettoyer avec une brosse à dents des céramiques découvertes et que tu vas devoir les dessiner et les étudier. Mais purée, dis-toi qu'elles ont plus de 2000 ans, c'est plaisant. T'as le passé de ta région dans les mains. Tu n'as plus qu'à exploiter ces données pour écrire une nouvelle page de l'histoire du coin. Et ça, je t'assure, ça vaut le coup. C'est ça, être archéologue, mon gars.
Ce matin, nous sommes réunis pour parler de la communication scientifique. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des chercheurs, des jeunes chercheurs, qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qu'est ce métier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Michel Sanka, sur quelle recherche travaillez-vous?
Alors moi, je travaille à l'INSERM, je travaille au laboratoire donc au TAGC et je fais une thèse donc en première année. Je travaille sur une maladie inflammatoire et je m'attelle à rechercher un peu des biomarqueurs pour pronostiquer, diagnostiquer et éventuellement faire des traitements pour cette maladie.
Merci. Caroline, votre recherche, s'il vous plaît.
Je travaille au sein du laboratoire 356 en sciences de l'information et de la communication. Ma recherche se porte sur l'intelligence connective et les médias sociaux. C'est essentiellement la question de la circulation de l'information, l'influence et... voilà.
Merci. Et Aurélie, donc vous travaillez sur quel sujet?
Je travaille sur un sujet de recherche fondamentale en neurosciences. Donc je travaille sur le fonctionnement du neurone au sein du système nerveux central.
Merci. Échec.
Moi, je suis en première année thèse sur le thème de l'épidémiologie du VIH dans les zones aurifères du Mali. Et je suis au niveau du labo CESTIM IMR-19.
Merci bien. Alors, cet extrait est très intéressant, celui qu'on vient d'écouter, parce qu'il montre que l'image d'Épinal, en l'occurrence de l'archéologue Indiana Jones, qui est véhiculée par l'industrie cinématographique et les médias en général, est très lointaine de la réalité scientifique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut réagir à cet extrait? Est-ce qu'il se reconnaît dans ce décalage qu'il peut y avoir entre l'image qu'on se fait de la recherche et des scientifiques? Oui, Aurélie?
Oui, donc je suis tout à fait d'accord sur l'image assez caricaturale et pourtant assez véridique du chercheur archéologue. Cependant, il faut noter que pourquoi on a cette idée de caricature? C'est parce que le travail du chercheur est divisé en plusieurs catégories et chacun a sa propre fonction. Donc il va y avoir le chercheur qui, lui, va être sur le terrain. Il va y avoir d'autres chercheurs qui, eux, vont analyser les données. Et donc ce partage des données donne une image assez explicite. C'est-à-dire que le chercheur n'est pas tout le temps sur le terrain. Cependant, il y a une forte collaboration entre les deux parties.
Merci. Quelqu'un d'autre?
Oui. Je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Aurélie. Donc, elle a parlé des caricatures, mais moi, je la vois pas. Je vois pas la caricature dans le sens du grand public vers le chercheur, mais je vois plus la caricature du chercheur lui-même qui, en général, bon, c'est des thésards qu'on attend. Donc, en général, en arrivant en thèse, on se croit nous-mêmes Indiana Jones quand on va faire de l'archéologie. Et quand on arrive donc à faire ce travail, on se dit paf. En fait, finalement, je ne suis pas Indiana Jones. Je suis autre chose. Je suis un chercheur. Et ce qui m'a plu, en fait, dans cette intervention, c'est qu'au final, il n'est pas Indiana Jones. Donc, ça lui fait un coup de morale à la baisse un peu. Mais quand même, il se rend compte qu'il a bien plus. Qu'est-ce qu'il voit dans Indiana Jones? Il a le passé de toute l'humanité entre ses mains. Et ça devient encore plus magnifique que ce qu'il avait caricaturé avant lui de devenir chercheur. C'est ce que je comprends plus dans ce qu'il a dit, quoi, dans ce témoignage.
Donc ça aussi, entre passion et plus un travail d'austérité, un travail de terrain un peu plus laborieux, est-ce que vous diriez peut-être que le métier est plus prosaïque qu'il en a l'air? Passons à deux autres extraits.
Je pensais qu'un jour, qu'en devenant chercheur en cancérologie, c'est que je vais trouver les traitements des différents cancers. Ayant si peu de temps, un vaccin par exemple, un médicament qui bloque la multiplication des cellules tumorales. Enfin, trouver le gène du chercheur. Eh bien non, je me suis trempée. Je peux vous dire que je suis actuellement en quatrième année de thèse et je n'ai pas encore trouvé le moindre résultat qui pourrait au moins donner un petit espoir aux patients pour alléger leurs souffrances. Mais la recherche restera toujours ma passion. Je ne lâcherai pas l'affaire.
Arrêtons de croire qu'un chercheur passe sa vie à manipuler les petites pipettes avec sa magnifique blouse blanche. Êtes-vous au courant de l'événement de l'année ? Dans tout le monde en parle ? Une petite fille atteinte de leucémie a été guérie grâce à la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire. En fait, ils ont juste stimulé son système immunitaire pour qu'il lutte contre les cellules cancéreuses. Ouais, en disant de cette manière, ça paraît d'une simplicité. Mais en vrai, ces petits chercheurs, ça leur a fallu des heures, voire des années de réflexion et d'hypothèses pour arriver à ce petit miracle. Alors, si on arrête un peu les préjugés et on essaie de connaître le vrai quotidien du chercheur.
Bien, en entendant ces deux extraits, je me pose la question, comme certainement beaucoup de personnes, quelle est l'utilité sociale de la recherche scientifique? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre?
Alors, en écoutant ces deux témoignages, on se rend compte qu'il y a un souci de, qu'il y a un souci de donner, qu'il y a un souci de chercher et de trouver quelque chose qui puisse améliorer des vies. Dans le cadre de ces deux témoignages, j'ai cru comprendre que c'est des personnes qui travaillent dans la biologie, en gros, dans la biologie médicale, et que donc ils ont ce souci d'avoir un peu failli à leur devoir. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, entre guillemets. Et ça résume toute la problématique qu'il y a autour de la communication de sa recherche. C'est-à-dire que est-ce qu'on devrait se placer en entamant un projet de recherche, est-ce qu'on devrait se placer dans une posture où on va dire aux autres, ok, nous on commence à chercher et on va trouver quelque chose qu'on va vous donner. Ou est-ce alors on va leur dire tout simplement, on va chercher et on va essayer d'améliorer les connaissances.
Oui, donc la recherche, c'est un travail de très longue haleine.
En fait, c'est un équilibre entre chercher et trouver, en fin de compte. Et comment après dire qu'on n'a pas le résultat du feu de Dieu, mais qu'on a quand même avancé dans un certain point et que ce travail n'a pas été fait pour rien.
Merci. Michel, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire là-dessus?
Moi, je voulais toujours aussi bondir sur le premier témoignage. Dans ce qu'elle a dit, le sentiment qu'elle n'a vraiment pas atteint l'objectif recherché. Mais en fait, par rapport à la recherche, c'est genre le résultat n'est pas trouvé. Mais en fait, il y a une ébauche déjà d'idées pour la continuité des autres chercheurs. En fait, on a un objectif à atteindre, mais on pousse le train jusqu'à un niveau et les autres aussi, on peut compter sur les autres pour continuer la recherche. Comme on vient trouver une ébauche d'une recherche et on s'est dit, les autres ont laissé là, on a aussi le devoir de pousser aussi un peu plus haut, même si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais quand même on a le sentiment de ne pas avoir un résultat, c'est déjà un résultat.
Intéressant ce que vous dites. Je sens aussi dans votre propos qu'il y a une dimension équipe.
Tout à fait.
La recherche n'est pas un travail individuel, solitaire, un travail qui est totalement individuel.
Oui, je voudrais rebondir justement sur ce que vous dites. Il est vrai que le chercheur a cette constante où il est censé trouver quelque chose. Et dans ces deux témoignages, on voit bien la dualité de quelqu'un qui n'a pas trouvé et de quelqu'un d'autre qui a réussi à trouver un traitement pour améliorer la condition de la leucémie. Malgré tout, le fait de ne pas avoir trouvé d'hypothèse sur un médicament ne signifie pas que cela n'a servi à rien. Cela va servir à toute une communauté scientifique qui est derrière et qui va se baser ses résultats pour améliorer les hypothèses de recherche et continuer à s'impliquer dans cette optique-là.
Oui, vous avez raison, il est important de souligner la dimension collective de la recherche. Passons à deux autres extraits, s'il vous plaît. Oui, vous vouliez intervenir, Aurélie? Bon,
c'est juste que, en écoutant ces deux témoignages, je me sens très éloignée, en fait, des problématiques liées à leur recherche. Dans la mesure où il y a une recherche, il y a un résultat qui doit être obtenu nécessairement, tandis que nous, en étant en sciences de l'information et de la communication, on a plus tendance à poursuivre deux problématiques en fait qui sont une promesse sociale et une réflexivité sur un sujet. Donc c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. On n'a pas nécessairement besoin de trouver un résultat dans ce qu'on fait.
Oui, donc il y a une dimension très réflexive, d'autocritique en permanence dans le processus de recherche. Ça rejoint ce que je disais, Cheikh, d'ailleurs. Les deux extraits que nous allons entendre maintenant vont nous éclairer sur une autre dimension importante.
Salut, moi c'est Léandre. Je suis refait, j'ai pu libérer 5 minutes pour venir parler de ma thèse à la radio. Bon, c'est très simple. Mon travail de recherche, c'est du biomimétisme ou bio-inspiration. Terme un peu à la mode, on en bouffe à toutes les sauces. Je vous donnerai bien mon opinion, mais je peux pas, je cherche. Je devrais vous expliquer facilement le lien entre les insectes volants, voltigeurs de l'extrême, type mouche, libellule, papillon, et la robotique à la conquête des airs avec les drones, par exemple. D'un côté, la nature parfaite. De l'autre, la technologie à un progrès continu. Sourire ironique. Ouais, ça a l'air super intéressant, mais qu'est-ce qui te plaît chez la mouche? Là, faut trouver une réponse vite, mais je peux pas, je cherche. Ou comme le colis que je dois aller récupérer à la poste depuis 3 semaines, mais je peux pas, je cherche. Attends, tu pourrais faire un effort, passer aider un peu ton frère en maths depuis qu'il est rentré en seconde, c'est chaud. Je peux pas, je cherche. J'ai un abonnement à la salle de sport, à la bibliothèque, une carte grand voyageur, j'utilise rien. Je peux pas, je cherche. Je comprends toujours pas l'utilité de la thèse du mec assis à côté de moi au labo, je peux pas, je cherche. Je continue d'acheter des dizaines de bouquins, mais je les lis pas, je peux pas, je cherche. Je cherche une situation plus stimulante que chercheur, mais je peux pas, je cherche.
Dans la vie, on est tous confrontés à la fameuse question « Tu fais quoi, toi, maintenant ?» Question qui, personnellement, me fait frémir. J'explique que je suis en thèse, projet de recherche à mener en 3 ans. Jusque-là, ça va, c'est cool. Mais comment ensuite expliquer que ce qui m'intéresse, c'est la recherche fondamentale? C'est de savoir comment le fait d'avoir appris à lire et à écrire a modifié la façon dont on perçoit la langue orale. Comme, par exemple, la capacité à découper un mot en plus petites unités sonores. Table en. T-A-B-L-E, et à les manipuler, ce qu'une personne illettrée n'est pas capable de faire. Genre, tu vas apprendre aux gens à écrire pour qu'ils apprennent à parler mieux, c'est ça? Comme la grammaire, quoi. Ouais, mais non, moi ce que je veux savoir, c'est au niveau cognitif, comment un apprentissage tardif, l'écrit, peut modifier une compétence acquise dès la naissance, la parole. Concrètement, je manipule la régularité des mots et j'observe les réponses électriques du cerveau quand on est confronté à ces mots. C'est intéressant, mais ça sert à quoi? Et c'est là que ça coince, la question fatidique à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais voilà les gars, sans recherche fondamentale, aujourd'hui, vous n'auriez pas de téléphone portable. C'est en trouvant une série de petits trucs qui ne servent a priori à rien qu'on finit par savoir comment les utiliser.
Le chercheur cherche. Chercher, chercher et chercher encore. Quel sens prend ce verbe dans votre activité de chercheur? Est-ce que ça fait partie de votre identité au quotidien ou vous cloisonnez votre vie privé, en dehors de la communauté scientifique, et votre recherche dans un cadre stricto sensu professionnel? Qu'est-ce qu'un chercheur? Quelqu'un veut intervenir là-dessus ?
Alors, qu'est-ce qu'un chercheur ? Je pense qu'un chercheur, c'est une personne qui travaille au quotidien sur une thématique et qui essaye de faire avancer le savoir sur un sujet bien précis. Ok, oui, on cherche. Mais là, chercher, ça englobe toute une série de mesures, en fait. Chercher veut dire réfléchir. Chercher veut dire lire. Chercher veut dire communiquer, transmettre. Chercher veut dire utiliser ses mains, faire des expériences, comme le cas de la première, du premier témoignage de l'archéologue, comme le cas de ces deux étudiantes qui travaillent en biologie médicale, comme celui qui travaille en mimétisme. Donc chercher veut dire plein de choses dans la vie d'un chercheur, quoi, pour paraphraser.
Alors justement, vous qui travaillez sur des sujets aussi spécifiques que l'archéologie, la science du langage, la science de l'information, de la communication, des sujets qui peuvent paraître abstraits pour le grand public, comment parvenez-vous à diffuser des connaissances aussi spécifiques et aussi éloignées des préoccupations quotidiennes du grand public ?
Ben c'est là toute la difficulté du problème. C'est-à-dire qu'un doctorant va travailler sur un sujet très précis. Mais ensuite, il est compris dans la communauté scientifique qui, elle, est plus générale. Par exemple, pour un cuisinier, il va utiliser différents ingrédients. Nous, on est un peu comme un ingrédient. On est la farine dans un gâteau, mais bon, ce qu'on va présenter, c'est le gâteau, c'est pas la farine. Donc en fait, on va regrouper les différents résultats pour communiquer au grand public quelque chose de clair et précis. C'est-à-dire le gâteau au chocolat, par exemple. Mais pour expliquer en détail ce qu'on fait, si on travaille sur la quantité de farine à mettre dans un gâteau, c'est pas très intéressant. Et ça, c'est vrai que le grand public, il le ressent.
Oui, Michel.
Alors, ces deux témoignages font ressortir aussi la relation entre la science et la société. C'est-à-dire science fondamentale et société, est-ce que cela nous apporte quelque chose ? Et comment ? Et du coup, en partant sur cette question, on se heurte aussi à la question de la communication du chercheur. Comment le chercheur qui travaille sur un problème fondamental peut communiquer sa recherche et peut de cette manière convaincre d'autres personnes qui sont profanes, on va dire, que cette recherche leur appartient et qu'elle leur sert.
Donc c'est un travail de tous les instants qui vous mobilise, chacun d'entre vous. J'aimerais terminer cette émission sur la dimension biographique que ça prend dans vos vies. Cette recherche n'est pas simplement, comme on le disait tout à l'heure, un pan de votre vie. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Comment arrivez-vous à organiser votre vie partant de ce fait-là ?
Mais c'est très intéressant. C'est vrai que la recherche, c'est un travail de passion, de longue haleine. Et c'est vrai, on travaille beaucoup. Mais malgré tout, c'est un travail d'équipe. C'est bon. Et on communique avec d'autres personnes, d'autres scientifiques, et on a une vie à côté de ça, malgré tout.
Je pense que vous partagez tous dire Aurélie.
Je partage les mêmes avis, on a des petits copains, des petites copines, des amis, voilà. Voilà.
Personnellement, c'est difficile à gérer. En tant que professionnelle et chercheuse, il est difficile de gérer son temps, d'avoir une vie sociale à côté.
Je pense aussi que c'est une vie qui demande beaucoup de programmation bien planifiée et bien gérée.
Merci à vous tous. Je pense que vous nous avez éclairé sur ce qu'est ce fabuleux métier et sur l'intérêt qu'il peut avoir dans notre société. Merci.
La recherche scientifique, quelle utilité ? La recherche académique s'intéresse de plus en plus à des réalités sociétales. Je me suis investi dans un objet de recherche, plus encore, c'est mon champ d'investigation. Vous, financeurs, participants au vivre ensemble, vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'anthropologie s'intéresse à notre quotidien, anthropologie des banlieues. Plus de peur, plus de méfiance des constructions identitaires collectives, tout s'identifie. Je travaille sur la transmission de la langue arabe en France entre culture d'origine et d'appartenance. Quelle perception !
réponse à une demande sociale ou source de repli communautaire, voire prémisse de ghettoisation d'une population en voie d'isolement. Notre société française est cosmopolite de plus en plus et nous devons davantage favoriser la recherche sociologique pour une paix sociale. Enfin, je suis en phase avec ce que je voulais étudier, observer depuis 2 décennies. Ah, je ne poursuis plus un rêve, je le suis.
Vous venez d'écouter comment est vécue la recherche scientifique par ceux et celles qui la font. 11 doctorants ont participé à cette émission. David qui anime, Aurélie, Caroline, Michel, Chek autour du micro, Axel, Marois, Fatma, Léandre, Ambre, Taïef au témoignage. Cette émission, réalisée dans le cadre d'une formation sur la communication scientifique, a été encadrée par Philippe Hert et Grégoire Molinati, maître de conférence en sciences de la communication au Centre Norbert Elias, Jérôme Mathéo, producteur radiophonique, et Nicolas Chevassu, journaliste de Mediapart. Remerciements au collège doctoral de Aix-Marseille Université, à Radio Grenouille et à Jean-Baptiste Humbert au montage.
Radio Grenouille, les 3-8.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.